Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Bah Guillaume, t'es déjà là?
Ah, je suis trop motivé là, on reçoit mon idole.
Ah, Jamy Gourmand.
Ah, je l'adore, j'ai tout appris dans C'est pas sorcier.
Ah ouais, même la mauvaise foi.
Eh oh, toi tu l'as appris où ta grandeur d'âme?
Bonjour Clara déjà.
Alors attendez, parce que comme je suis arrivé tôt, j'ai bossé, on va faire un C'est pas sorcier Jupiter.
Ah,
allez Marcel, allume ton transistor. Nous sommes au cœur du bureau de Par Jupiter, l'émission satirique de France Inter. Tiens, attends, je t'ai écrit ton texte.
Mais alors, Guillaume, comment prépare-t-on une émission aussi drôle?
Eh bien, Charline, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est pas sorcier.
Attendez.
Écoutez plutôt.
Mais Guillaume, mais on va pas tout dévoiler nos secrets, là. Tu veux pas faire une maquette tant que t'y es?
Ah, la maquette, super idée. Alors, regardez ce joli bâtiment blanc, circulaire. C'est la maison de la radio.
Non, mais Charline, je crois que là, il est en train de...
Ouais, de donner la recette de Par Jupiter. Non, mais Guillaume,
plus de 4000 employés travaillent nuit tes jours dans ces...
On n'y arrivera pas, il est reparti en enfant.
Non, attends, j'essaye un truc.
Services.
Patrick Balkany.
Ici, on voit les strates de blagues qui ont entamé
leur sédimentation. Je sais pas si on va le récupérer,
Guillaume, regarde. Ouh, il y a Laurent Wauquiez qui mange un steak saignant.
Allez les amis, moi je pars sur le terrain.
Ah, mais bonne idée, tiens. Et puis n'oublie pas ton nagra.
Mais le nagra, Charline, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un enregistreur.
Non, attends, on l'enferme dans le camion, là.
Là, je crois qu'on n'a pas le choix. Guillaume, regarde là-dedans, tiens. Regarde, ouh, il y a une belle maquette du siège de Google.
Oh, génial, super. Ah ouais, mais wow, pourquoi on m'a enfermé là?
Allez Marcel, puis tu roules jusqu'où tu veux du moment que tu rentres pas avant 18h. Bonjour la France Inter depuis les studios d'Hollywood. Avec tous ces effets spéciaux. Bienvenue dans l'esprit start-up, là où la crème de l'actualité est renversée par la blague. Le député mathématicien Cédric Villani est candidat à la mairie de Paris et il est soutenu par d'autres scientifiques. Quel est l'apport du scientifique à la politique? Sans doute déjà une longueur d'avance pour évincer ses adversaires.
Un dérivé lent de la nitroglycérine. 5-6 gouttes dans le potage et le patient explose. De l'intérieur.
Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, veut la Lune. Il vient donc de présenter un projet d'alunisseur nommé Blue Moon. Parce que la grande question de Jeff, c'est « Mais que faire de tout mon fric ?»
Il donnerait de l'or, même aux plus démunis.
Non, pas aux plus démunis, non. On va dire n'importe quoi non plus.
Le tunnel sous la Manche fête ses 25 ans, pile au moment où les Britanniques veulent couper les ponts avec l'Europe. Creuser un tunnel sous la mer, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est aussi banal que de prendre un train. Alors c'est par où, alors?
Dis au chef que pour aller en Angleterre, le mazout, ça suffira. Mais faut pas zigzaguer, hein.
Un sujet qui inspire beaucoup celle qui nous accompagne, puisque son héroïne, Aliénor d'Aquitaine, avait un pied en France et l'autre outre-Manche. Bonjour Clara Dupont-Mono.
Bonjour les gueux, bonjour à tous. Et alors, autour de cette table,
de confiance,
une belle équipe avec trois fascinantes curiosités naturelles. On le surnomme mini cristaux de sel, et c'est logique puisque le sel qualifié d'or blanc fut l'objet d'un intense commerce et longtemps source d'impôts. Bonjour Pablo Mira.
Bonjour Clara, salut Charline. Grisouille. Clara, je suis alors
c'est grisophobe
choqué.
Ce que vous faites.
Choqué aujourd'hui, c'est le mot. Alors par quoi ça, je sais pas encore, mais je le suis et je le serai encore tout à l'heure. Ça va pousser la gueulante. Scandaleux.
Attention. Il serait cette plante pâle et disgracieuse qu'est la betterave blanche qui pousse au ras du sol et qu'il faut couper en lamelles afin d'en extraire le bon. Bonjour Guillaume Meurice.
Eh ben ça fait plaisir. Bonjour à tous. Eh ben c'est aujourd'hui l'ouverture du procès Balkany. Évidemment, je suis allé à Levallois-Perret.
Et alors, est-ce qu'il est honnête, ce Patrick Balkany?
Oui, aïe.
Oui, on est sur du oui, aïe.
Vrai commentaire. Elle serait un savon, probablement de Marseille. Un mélange d'huile et de glycérine qu'il faut chauffer longtemps pour obtenir un savon qu'on ne peut serrer sans qu'il s'échappe. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour.
On n'a pas bien compris, mais ça avait l'air beau.
Si, c'est bien.
Non, chauffer, serrer, non. Bien.
Non, voilà.
Très bien.
Exactement, très bien.
On va
parler de quoi aujourd'hui?
D'un homme qu'on appelait l'écureuil.
D'accord.
Bien joué Clara, une présentation en hommage au livre que nous vient nous présenter notre invité, celui qui va rendre l'actualité à l'état solide. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Je suis Jamy Gourmand.
Jamy.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Jamy.
Bonjour à tous.
On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un livre en plus paru chez Stock dans une collection qui s'intitule Passeur d'histoire et qui s'intitule Mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques. Toute petite question préliminaire. Après 25 ans d'images et de télévision, pourquoi en venir à l'écrit?
Non, alors, attendez, ouais. Charline, c'est pas comme ça qu'on pose la question. Jamie! Après 25 ans d'images à la télévision, pourquoi en venir à l'écrit?
Alors, je vais sortir une maquette. Imaginez une sorte de calendrier qui dure 25 ans, 19 ans précisément, 570 émissions de C'est pas sorcier, puis ensuite des émissions pour le monde de Jamy. Tout ça sur une maquette, sur un fil du temps. Voilà. Mais ce fil du temps passe très vite et parfois pour expliquer les choses, on a besoin des mots. Pour raconter, on a besoin des mots. Quand on présente les choses avec les images, ça passe très vite. Et moi, j'avais envie de dire des choses que je n'ai pas pu dire jusqu'à présent. Oui. Notamment de faire passer un petit peu d'émotion que j'ai ressentie sur tous les sites que je décris.
Ah, on va y venir. Alors, vous abordez plein de chapitres qui, à chaque fois, sont inscrits dans un territoire. Il y a, par exemple, les petites vaches des Alpes. Pourquoi la nature leur fait porter des lunettes? La vanille de l'île Bourbon. Comment l'homme a dû prendre la place des abeilles? Ou, au hasard, la houille noire des pays miniers du Nord. Comment expliquer l'extraordinaire processus de fossilisation du charbon? Clara Dupont-Monod.
Oui, nous, ce qu'on se demandait, Jamy, c'est que, en regardant cette carte de France qui est la vôtre, en fait, est-ce que vous aviez comme projet d'aller à rebours, en fait, des clichés qu'on a sur une région? Parce que chaque fois, on en découvre une part complètement méconnue et assez fondamentale. On ne savait pas qu'il y avait du sel dans le sol du Jura, par exemple. Et est-ce que c'était ça, votre projet?
C'était pas forcément aller à rebours des clichés, c'était peut-être découvrir des choses qu'on ne savait pas forcément sur une région. Puisque dans ce bouquin, il y a ce que vous dites. Il y a effectivement des choses que l'on ne sait pas sur certaines régions. L'exemple du sel est assez révélateur, mais je parle aussi dans le sud de la France des dinosaures d'Esperanza. Et donc de surprendre finalement, de parler d'une région à travers un autre prisme que celui que l'on utilise habituellement.
Un prisme même fondamental, hein, on parle de la houille, des strates, du sol, de pourquoi l'océan est salé, etc. Arrêtons-nous par exemple sur le sel, c'est un chapitre, je trouve, très frappant, parce que, et on va y venir, il y a une plume, il y a la plume de Jamy qu'on découvre avec bonheur. Mais c'est vrai, parce que vous êtes...
Trempé dans le sel.
Ouais.
Non, si on est très honnête, on était très agréablement surpris de votre plume.
Oui, ouais, on pensait que vous étiez nul en écrit.
Non,
en
fait, mais...
Merci, je note.
Non, pas du tout. C'est vrai que quand on entend vos explications scientifiques...
Vous n'êtes pas les premières à le penser, en tout cas.
Non, mais on va y venir, justement, vos explications scientifiques sont toujours tellement remarquablement transmise, qu'on se dit bien, il y a une plume derrière, parce que la base, même en télévision, c'est toujours l'écrit. Mais venons avec un exemple particulier de ça, parce que vous partez du grain de sel. Ce grain de sel, il nous emmène à la fois dans les océans, dans les terres du Jura. Je me disais, comment est-ce que on a l'audace finalement d'écrire un chapitre qui part du grain de sel pour expliquer à la fois l'infiniment grand, les océans ou les terres du Jura, et l'infiniment loin aussi?
Et l'infiniment loin dans le temps, puisqu'on retourne au XVIIIe siècle, et puis on retourne aussi à 220 millions d'années en arrière. Finalement, quand j'ai commencé à bosser sur ce sujet, à gratter, parce que on cherche toujours des infos sur un thème, on est séduit d'abord par la physique des choses, et puis par un site aussi, puisque tout est parti quand même d'un site, le site que je décris, les Salines Royales d'Arcachon, qui est un bâtiment extraordinaire, qui est perdu au milieu de la campagne du Jura, un arc de cercle extraordinaire construit par un personnage complètement fou, Claude Nicolas Ledoux, qui quand on arrive là, on se dit mais quel prince vivait ici? Ça ressemble à un palais? Ben non, c'était pas un prince, c'était des ouvriers. Ce type-là était un architecte fabuleux, plein de génie, parce que l'histoire de ce bâtiment ici et pas ailleurs a vraiment un sens. Mais aussi, il voulait construire un bâtiment où l'homme travaille et vive dans de bonnes conditions. C'était un précurseur, un disciple de Thomas More, donc vraiment un précurseur, un utopiste.
Et puis vous avez fait des études de lettres, Jamy, vous avez été journaliste, vous avez travaillé à Radio France.
De lettres, j'ai un bac littéraire, j'ai fait un petit peu de droit où je n'ai absolument pas réussi, et puis ensuite une école de journalisme.
Est-ce que c'est ça qui vous rend vos explications scientifiques finalement si limpides? C'est aussi ce côté littéraire, cette plume, et le côté sensoriel dont vous parliez. le côté... Oui,
parce qu'il y a toujours les odeurs chez vous. Ce qu'on disait avec Charline en lisant le livre, c'est que vous êtes toujours à convoquer les sens, la vue, mais l'odeur, vous faites la différence, et pour ça, on vous bénit entre la terre agricole et le sous-bois. Donc, c'était l'idée aussi que le savoir est une affaire de sens, et pas que de neurones, en fait.
D'observation, de ressenti. Moi, à chaque fois que j'arrive quelque part, souvent, je convoque mes sens. Je suis là en train de me dire qu'est-ce que je ressens au niveau du toucher, au niveau de la chaleur, du froid, des odeurs, de l'humidité. Tout ça, c'est vachement important pour connaître un site et ensuite
et là,
pour pouvoir le raconter.
Quand vous êtes rentré dans le...
Au début, quand vous avez parlé de sens et vous avez parlé d'odorat, je n'ai pas compris l'allusion.
Pour tout vous dire, on est entré dans le studio.
Et on cherche l'animal mort qui se trouve dans le studio actuellement.
Si François-Régis Gaudry a enregistré On va déguster spécial camembert, je ne sais pas qui était avant nous dans le studio, mais il y a un truc olfactif.
C'est vrai,
il y a
une carcasse.
C'est un petit peu la vie de Radio France. Après, c'est vos impôts aussi, vous êtes tous actionnaires. Jamy Gourmaud, avec nous jusqu'à 18h. Son livre s'intitule Mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques, paru chez Stock. Tout le monde y trouvera sa région, et notamment, par exemple, le mystérieux radeau breton. Comment la télé en direct a franchi les océans. Al Green, à partir d'un titre de Roy Orbison sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. C'est Jamy Gourmaud qui nous accompagne, le Jamy. Et d'ailleurs, il est 17h22 à Fontenay-le-Comte en Vendée.
Ah,
c'est là où vous êtes né.
Exactement.
Eh oui. Ouais. Pour entourer Jamy, Clara.
Pablo Mira, Guillaume Meurice dit la betterave dans le milieu du grand banditisme et Juliette Arnaud.
Et dans le milieu journalistique, on dit Breaking News.
Yeah.
Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal? Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien.
Le journal de presque 17h17.
Patrick is back.
Et on commence avec les titres.
On parlera du procès Balkany qui s'ouvre aujourd'hui.
Non, attendez, vous êtes trompé, vous avez pris le journal d'il y a 20 ans, je pense.
Ah non, non, mais c'était il y a 20 ans, mais c'est encore aujourd'hui.
Ah d'accord, ah, oui, bah, oui, ça change pas beaucoup l'actu.
On parlera aussi de Daniel Cohn-Bendit.
Non, non, bah non, vous avez pris le journal d'il y a 50 ans, là, j'ai l'impression.
Ah non, mais ça n'a pas changé non plus, en fait, il est encore là.
Ah, mais ça change pas du tout, en fait. Ouais, donc il y aura des brèves, comme depuis des années, ça change pas.
Non, c'est fini les brèves.
Ah bon, c'est fini.
Ah, mais qu'est-ce que vous êtes ringard.
M'engueulez pas comme ça, je suis pas au courant.
Et on commence avec la phrase que vous avez tous le plus entendue dans votre vie.
Oui, attention, Patrick et Isabelle Balkany sont au tribunal aujourd'hui.
Oui, classée phrase numéro 1, la plus entendue juste avant. Nathalie Loiseau a encore dit une connerie.
C'est vrai, c'est vrai. C'est donc le début du procès des Balkany. Alors attention, ils sont jugés. Pourquoi ?
Pour les mariages suspects à Levallois-Perret.
Non.
Les emplois fictifs à la mairie.
Non plus.
Pour les abus de biens sociaux.
Non, on s'approche.
Fraude fiscale et blanchiment.
C'est oui, ouais, c'est oui, Charline. C'est oui, vous gagnez un slip dédicacé d'Éric Dupond-Moretti.
Ah, chance. Voilà, attendez, parce que j'ai un autre jeu, vrai ou faux. Le Rassemblement National est accusé d'intelligence.
Faux. Ben, intelligence et Rassemblement National, ça va pas ensemble, c'était facile.
Non, attendez, parce que j'avais pas fini. Accusé d'intelligence avec une puissance étrangère.
Ah. Alors là, c'est pas simple, parce que je crois que Le Pen déteste autant l'intelligence que les étrangers.
Et pourtant, c'est vrai, ils sont accusés d'avoir touché de l'argent des États-Unis.
Aidés par les Russes, financés par les États-Unis, la xénophobie, c'était mieux avant.
Politique encore, ce soir sur LCI, c'est la grande confrontation Éric Zemmour, Daniel Cohn-Bendit, ça donne envie, hein.
Ouais, ça donne envie de se crever les yeux et les tympans avec un flashball.
International à présent, et cette polémique à propos des touristes otages au Bénin.
Jean-Yves Le Drian a parlé de zone rouge, alors que la région n'est pas classée comme telle.
Oui, et Christophe Castaner a déclaré, c'est la faute aux gilets jaune, remets-moi une fuse.
C'est vrai. Voilà. Média à présent.
Oui, les restrictions budgétaires se poursuivent dans le groupe Bolloré. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de coiffeur pour s'occuper des présentateurs de CNews.
C'est un comble pour des peigne-cul. Et on passe aux brèves.
Alors non, parce que plutôt que
ah
les
oui,
brèves,
y a pas de brèves. Oui.
Non, je vous propose un document unique. Ah. Attention, parce que nous avons remis la main sur un sketch inédit des Inconnus. Ah. C'est un sketch dont on vous laisse découvrir le thème.
Pour le concours, ce qui arrive le plus dur aussi, c'est la longueur de la baguette et le poids de la baguette. Parce que la baguette, c'est 50 cm de long et 250 grammes cuite. Donc on connaît le poids cru, mais on connaît pas forcément le poids cuit à la fin, quoi. Ah bah, ça fait un mois et demi qu'on s'entraîne tous les jours à fond sur la longueur, sur le poids, et là, je suis à 250 grammes cuite.
Alors, attendez, c'est pas un sketch, en fait, Charline, c'est le favori pour le concours de la meilleure baguette de France.
Ah bah non, vous rigolez, quoi, j'ai reconnu Bernard Campan, là, écoutez.
Le plus gros stress, ça va être la météo. L'humidité, on est en extérieur, on est sous chapiteau, on maîtrise pas du tout la météo, forcément, heureusement d'ailleurs. Et un temps humide, il va falloir baisser les hydratations de pâte. Un temps plus chaud, il va falloir réduire en levure.
Ah, oh, excellent.
Non, mais non, Charlie, c'est un reportage en fait de Sandrine Houdin, diffusé ce matin dans le 5-7 sur notre antenne. En fait, c'est un...
bah, vous êtes sûr? Parce que bon, quand même.
Oui, je joue sur l'alvéolage de la mie, donc une belle mie alvéolée régulière, sur une mie un peu crème, une pas blanche, sur le croustillant de la croûte. Mais bon, ce qui est déterminant sur le croustillant, c'est, on en revient toujours au même, c'est la météo, quoi. Une météo humide, le croustillant sera beaucoup moins important, quoi.
Ah bah d'accord, oui ok. Bah, ouais, donc oui. Le concours de la meilleure baguette, c'est comme le tour du monde à la voile, quoi, c'est toujours sur la météo, c'est ça. 17h25 sur France Inter, vous voilà bien informés. Et c'est sur cette base solide, telle une belle sédimentation, que nous allons aborder ce premier sujet avec Jamy qui nous accompagne. Le monde scientifique et académique a choisi son candidat pour Paris, semble-t-il. Le député LREM et mathématicien Cédric Villani est soutenu par plusieurs pointures du monde des lettres et des sciences sociales. Que peut apporter un scientifique à la politique de la cité? Bon, la même chose qu'en soirée, je dirais, à peu près.
L'erreur qu'on fait trop souvent, c'est qu'on considère que la vie est un phénomène local et c'est le truc, le miracle de la vie, ces conditions propices exceptionnelles qu'on fait entre les mouvements de marée, la bonne distance du soleil, l'eau liquide, la vie s'est développée sur Terre. Alors que si on prend le Big Bang et pas un truc, un point comme ça qui est séparé, mais si on prend un satellite comme le satellite Planck qu'observe le rayonnement diffus astronomique, on est entouré par le Big Bang, c'est la plus grande distance. Où qu'on regarde, on est entouré. Du coup, on a très rapidement la sensation d'être dans un œuf. Du coup, pourquoi pas, en extrapolant cette idée que l'univers est un œuf, à considérer que c'est en elle-même une machine à fabriquer de la vie.
Oui, c'est Victoria, le film de Justine Trier avec Virginie Efira, passionnée par son date. Alors, Cédric Villani est soutenu, entre autres, par l'historien Benjamin Stora, le démographe Hervé Lebras ou l'éditrice Odile Jacob. Tout cela nous est expliqué dans un article publié sur le Huffington Post qui dit qu'il y a beaucoup aussi de gens du monde scientifique en général qui soutiennent la candidature de Cédric Villani à la mairie de Paris. C'est quand même une médaille Fields, l'équivalent du Nobel de mathématiques. Et on se demandait ceci, Jamy Gourmaud, que peut apporter un scientifique d'après vous, à la politique, au-delà du simple conseiller, mais le scientifique dans les actions, dans la cité. Est-ce que vous y croyez, vous, à ça?
Moi, j'y crois, oui. L'esprit critique,
Ah oui. Ça, c'est super important. L'esprit critique pour éviter de se faire aspirer par les préjugés. Et je crois qu'en ce moment, c'est assez utile. Mm-hmm. Voilà. Donc, après, en quelques mots, là, ce que je pense de la place du scientifique. Mais c'est étonnant quand même qu'on s'étonne presque qu'un scientifique puisse devenir un représentant des citoyens. Parce que ça montre un petit peu quand même ce que l'on pense globalement de la science par rapport au reste de la cité. Comme si un scientifique ne pouvait pas, comme si c'était quelque chose, une sorte de zébulon qui était à côté du monde.
Or, non mais c'est les démarches qui sont différentes.
Or la science fait vraiment partie de notre...
Oui, mais d'un côté vous avez l'idéologie et de l'autre on peut dire que vous avez la rigueur et l'exactitude.
Absolument.
Des faits où l'opinion n'entrerait pas en jeu.
Complètement.
On peut les voir comme opposés, quand même, les deux.
Mais la question qui m'était posée, c'était sur ce qu'un scientifique pouvait apporter
à la cité. Mais si vous commencez à répondre aux questions, on n'est pas sorti.
Vous n'êtes pas obligé.
Attendez, il y avait un a priori très positif dans la question. Souvent, je mets la réponse dedans, mais là, et pour une fois, ça ne s'est pas entendu. C'est ça qui est génial. Il y a aussi le fait que le monde politique aujourd'hui renvoie une image qui n'est pas qu'une image, qui est malheureusement ce qui arrive. Ce qui semble diamétralement opposé au monde scientifique. C'est-à-dire d'aller chercher le chaland, d'aller dans la communication, etc. Ça paraît tellement loin de la rigueur, de la recherche qui est toujours tournée vers autrui réellement. Et donc, finalement, Cédric Villani, est-ce qu'il s'en sort pas mal dans ce bourbier ? Il faut être armé comme scientifique pour attaquer ce domaine-là.
Moi, je trouve qu'il s'en sort pas mal du tout. Je m'est arrivé de le croiser, d'échanger avec lui. Il y a chez ce scientifique, chez cet homme, chez ce citoyen, il me semble beaucoup de sincérité. Donc, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal.
Oui, puis après, c'est vrai que Clémenceau était médecin. Il y en a plusieurs. Che Guevara était médecin.
Claude Allègre.
Alors, ça lui a moins bien réussi.
Ça lui a moins bien réussi.
Il était géochimiste. Ça lui a moins bien réussi. C'est l'idée que la science, c'est un équipement, moral, fait. C'est ça que vous voulez dire?
Complètement. Oui. Enfin, pas que moral. C'est un équipement qui, justement, pas moral. Justement, un équipement qui permet d'appréhender les choses de manière beaucoup plus
rationnelle et
rationnelle,
empirique, quoi.
Exactement, rationnelle. Voilà, et c'est cette rationalité qui nous permet d'éviter de nous faire piéger par beaucoup de préjugés.
Eh bien, on a enregistré votre soutien également, donc pour oh, le piège.
Eh bien voilà, c'est fait.
On plaisante, bien sûr. Jamy Gourmaud est avec nous pour son livre « Mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques » paru chez Stock. Et il est 17h30, l'heure de passer la parole au plus écolo d'entre nous, puisqu'il a décidé d'utiliser moins d'eau pour la planète. Et ça se sent. Ça se sent même très fort. C'était donc ça dans ce studio. C'est vous, Pablo Mira. Pablo, mon petit brûleur de sinus, comme on pourrait dire. Vous nous parlez aujourd'hui de biodiversité.
Oui, ma louloute. Visiblement, on serait au bord d'une nouvelle extinction de masse. Alors, ça a l'air d'être un événement majeur, dit comme ça. Mais je rappelle qu'une extinction de masse, c'est un phénomène que l'on frôle à chaque fois que Gérard Larcher commande quelque chose au restaurant. Donc, rien de méchant. Selon un rapport d'experts de l'ONU, écoutez bien, 1 million d'espèces animales et végétales seraient menacées de disparition d'ici quelques dizaines d'années. Ouh là là, mon Dieu, ça fait peur. Non, là, faut arrêter un petit peu avec le catastrophisme. C'est pas la fin du monde non plus. Je rappelle que l'humanité a très bien survécu à la disparition du dodo en 1681 ou à celle du socialiste en 2017. En plus, on voit bien que l'ONU cherche à faire peur en insistant bien sur la rapidité sans précédent de l'extinction de toutes ces espèces. Si on les écoute, ces espèces disparaîtraient aussi vite que les animateurs de plus de 50 ans à France Télévisions. Alors apparemment, oui, je dis bien apparemment, les plus menacés seraient principalement les insectes. Hein. Ouais, non, hein, cette nuit encore, j'ai été piqué par un moustique, donc là, bon, hein, franchement... Oui, j'ai été scolarisé à la Pascal Pro Academy. C'est un peu comme Poudlard, sauf que là, c'est pas une chouette magique qui vous remet votre lettre d'admission, mais c'est Elisabeth Lévy, hein, qui n'a de magique que son taux d'alcoolémie. En tout cas, on voit bien que ce rapport de l'ONU, c'est n'importe quoi, ça ne sert qu'à exciter les écolos extrémistes qui, hier encore, ont saccagé les marches du Trocadéro en déversant du faux sang, vous l'avez peut-être vu. Personnellement, moi, je ne suis pas surpris, cette peste verte utilise toujours la même ficelle, la peur. Aujourd'hui, c'est du faux sang. Hier, c'était les moustaches de Noël, ma mère. Des écolos de... s'il vous plaît. Des écolos de plus en plus radicaux et cinglés, il faut bien le dire. Alors maintenant, c'est nouveau, j'ai découvert ça ce matin, écoutez bien. Il y en a même qui s'éclairent à la bougie. À la bougie, Charline, hein, comme au Moyen-Âge ou dans certains immeubles de Marseille. Et il y en a d'autres qui vont encore plus loin. Écoutez bien, ils se font stériliser. Oui, ils se font stériliser. Ces ayatollahs du yuzu considèrent la naissance d'un enfant comme une mauvaise nouvelle. C'est quand même fou d'être aussi radical que des parents qui en sont déjà à leur troisième enfant. Et le pire, c'est que c'est en train de contaminer tout le monde. Tout le monde se délire. Même ma femme s'y met. Moi, je voudrais, je vous le dis, un troisième enfant, mais elle... Ben, c'est pas la folie, hein, tout ça parce que les écolos lui ont monté le bourrichon.
Arrête de mentir, Pablo. Tu sais bien que c'est à cause de Guillaume Maurice. Elle est amenée de lui et de ses chroniques de gauchiste. Là, mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver à ce face, mon nom de Dieu. Il a rien pour lui. Il a les cheveux de Laurent Wauquiez, le visage du père Castor. Et en plus, avec son régime végan, il est tout carencé. Il va même pas tenir 15 secondes au plus mal.
Le grand bassin, c'est pas un chelevet. Alors qu'elle était, elle était tout à fait normale avant. Alors bien sûr que c'est triste cette extinction de masse, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut se faire à l'idée que des animaux disparaissent, c'est tout. Bientôt il n'y aura plus d'ours, plus de lions. Le nouveau roi de la jungle, ce sera la truite, et c'est pas grave. Et de toute façon, c'est inévitable, d'autant plus que la destruction de leur habitat, qui est la première cause hein, de leur disparition, eh ben, c'est un mal nécessaire, car si on détruit pas leur habitat terrestre, par exemple, eh ben, vous pouvez faire une croix sur votre table basse achetée chez Habitat. Et après, on fait comment pour poser les pieds hein, quand on est sur le canapé hein, où est-ce qu'on le pose, le ramequin d'olive pendant l'apéro hein, viande des grisons, burrata, tout ça hein, par terre. Et puis on finit par vivre comme les Indiens Shipibo, c'est ça. Et puis on se met des 45 tours dans la lèvre, des 45 tours des Daft Punk. Non, soyons sérieux deux minutes. Soyons aussi un peu optimistes. Cette extinction massive n'arrivera peut-être jamais. Parce qu'on oublie vite qu'on a la chance d'avoir un président qui se bat comme un diable pour l'écologie. Car il l'a dit, Macron, souvenez-vous, hein, il l'a dit en revisitant la formule de Donald Trump, il l'a dit qu'il allait « make our planet great again et grab Mother Nature par le pussy ». D'ailleurs, il y a déjà des solutions pour éviter cette sixième extinction de masse, figurez-vous. Moi, j'ai récupéré, je vous le dis, un rapport d'expert qui répond à cette question qu'on va découvrir ensemble. Alors, première mesure, je regarde, arrêtez de manger de la viande. Alors comment faire pour que les animaux survivent plus longtemps? Eh bien le drame c'est que personne n'a de réponse pour l'instant, ou de scotch pour recoller la réponse que j'ai déchirée à l'instant. Pour conclure, si ces chiffres de l'ONU sont vrais, alors moi je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant, très franchement, que l'humanité soit bien en train de détruire toute la biodiversité, ou qu'en tuant l'homme à petit feu avec ses produits, eh bien Monsanto soit par conséquent la première entreprise écolo au monde. Allez, salut.
Merci Pablo Mira, dont c'était l'édito. Il a travaillé à la Pascal Pro Academy et voilà,
tout juste des deux heures,
merveilleux résultat. Vous écoutez France Inter.
Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe l'étoile. Les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux des perles silencieux. Au fond de nous, l'étincelle. Dans le cas orageux, cet éclair dangereux des héros silencieux. Dans l'heure du soir qui plonge,
sombre se rallonge. Les anges se morfondent. Nos poignards étoilés dans ce théâtre d'ombre. Griffes sur le pavé, les cœurs givrés au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux des perles silencieux au fond de nous, l'étincelle.
Étienne Dao, sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Notre invité, c'est Jamy. Jamy qu'on peut toujours voir sur France 3, bien sûr, dans Le Monde de Jamy ou dans Côté Jardin. Et Jamy qui publie Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, paru chez Stock, que Clara et moi, on vous recommande. On a appris plein de choses et c'est super bien écrit. C'est un plaisir. Et en plus, c'est un plaisir d'être avec vous, Jamy. Dites donc, on est... je pense qu'on est in love avec Jamy.
Ouais,
ça, on ne peut pas vous le cacher, c'est comme ça.
C'est et un plaisir partagé.
Il y en a un qui est en transe. Hein.
Ah, il y en a un qui est... Voilà, là, c'est... Vous êtes son idole, c'est Guillaume Meurice.
Eh ben moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'acharnement judiciaire aujourd'hui, puisque c'était il y a quelques heures l'ouverture du procès des Bonnie and Clyde du 92. Isa et Patoche Balkany, injustement harcelés par la justice, alors qu'ils ont quand même fait pas mal pour préserver des emplois dans le domaine. Je rappelle que depuis 20 ans, ils ont dépensé en frais d'avocat l'équivalent du PIB du Mozambique. Hein, c'est quand même pas rien. Et je rappelle aussi que Patrick est un gars qui fait beaucoup vivre les chroniqueurs de France Inter.
Ah oui.
Moi, à force de faire des chroniques sur lui, je vais avoir bientôt les moyens d'acheter un appart à Levallois, directement. Hashtag Pablo Mira. Alors, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est assez complexe. Ouais, je balance. Ce qu'on lui reproche, c'est assez complexe. C'est des montages financiers, c'est un peu le bordel. Faudrait un C'est pas sorcier spécial Patrick Balkany pour expliquer ça. Jamy, comment il fait Patoche pour planquer son pognon?
Attention, C'est pas sorcier ne durait que 26 minutes.
Ah ouais, alors là, il y aura peut-être plusieurs épisodes à ce moment-là. Mais on pourrait imaginer des maquettes comme ça. Alors ça, c'est les caisses de la mairie de Levallois. Ça, c'est la poche à Patoche. Ah, c'est pas mal, non? Enfin, voilà. Bon, bref, je lance l'idée comme ça. Alors, en attendant, pour parler de tout ça, ben, je suis allé au chevet du peuple de Levallois. Il est inquiet, il est blessé. C'est un peuple qui aime son patoche et un patoche qui aime son peuple. Par exemple, tous les ans à Noël, toutes les personnes âgées de la ville reçoivent un petit cadeau. Plaisir d'offrir.
Ben oui, ben, y a pas de raison. Je vais voter à chaque fois. Et à chaque fois qu'il présente un cadeau pour les personnes âgées, je vais le chercher. Donc, même si c'est qu'un petit cadeau, si c'est qu'un parapluie, si c'est que... il y a eu des fois, c'était, vous savez, une serviette de bain, enfin, des trucs comme ça.
Est-ce qu'il offre des casseroles, des fois?
Non, il n'y en a pas encore eu.
Ah, ça va pas tarder, ça va pas tarder, il y en a en stock, mais c'est quand même sympa. Un cadeau en échange d'un vote. On gueule contre l'abstention, mais si tout le monde faisait ça, il y en aurait quand même moins. Tu votes pour Glucksmann, hop, un petit bol de boulgour. Par exemple, c'est des idées. Tu votes pour Nathalie Loiseau, une petite photo du maréchal, ça fait toujours plaisir. Tu votes France Insoumise, un pins parlant Mélenchon, hein, qui fait la République, c'est bon! Peut-être un peu chiant, mais je lance des pistes comme ça. En tout cas, Patoche, c'est la générosité, c'est le cœur. Posons la question qui fâche, est-ce qu'il magouille?
Magouiller, ça veut dire quoi, magouiller?
Ça veut dire toucher de l'argent illégalement.
Ah non, magouiller, c'est tricher. Attention, c'est de prendre un écrit et de le changer. Ça, il ne magouille pas.
Ça, il fait pas?
Ah non.
Mais est-ce que quand même, il touche de l'argent illégalement?
Illégalement, ça veut dire quoi? Non, il a trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire illégalement?
Bah, avec des montages financiers...
Il gère son patrimoine.
Voilà, c'est ça, il gère son patrimoine. En France, on n'aime pas la réussite, c'est le problème. Alors que le gars, c'est un modèle de gestion de patrimoine. Est-ce que vous avez des villas dans le monde entier, vous? Eh ben voilà, vous ne savez pas gérer votre patrimoine. Remettez-vous en question. La seule qui sait gérer son pognon ici, c'est Clara. Hein, je le dis parce qu'elle est radine comme pas deux. Bon, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une légende qui raconte qu'on l'aurait vu payer un café à quelqu'un en 87. Bon, personne n'y croit, mais on a besoin comme c'est ça nous les.
Checker,
c'est... Oui, c'est faux. C'est voilà, faux. Ben vous voyez, je m'avançais.
Je paye ouais, toi à chaque fois.
Bon,
c'est honteux.
Mais malgré ça, elle a pas de villa. Alors foutez la paix à Patoche, comme le réclame cette dame.
Bah bon, ouais, j'aimerais qu'il lui foute la paix.
Mais alors, est-ce que vous pensez qu'il a magouillé ou pas du tout?
Bah bien sûr, mais comme tous les entrepreneurs.
Ah oui.
Bah bien sûr, mon père était entrepreneur.
pour avoir des adjudications. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait une enveloppe.
Magouillet aussi.
Eh ben voilà. Bien sûr.
Mais c'est une tradition locale, en fait.
Pas absolument, mais ça fait partie du jeu.
Ben oui, ben c'est comme ça, enfin. Ne pas respecter les règles du jeu, ça fait partie du jeu. Si vous jouez au Monopoly avec Patoche, vous allez vite comprendre. Hein. Tous les tours, il pioche dans caisse de communauté. Il a raison, c'est malin, c'est Patoche. D'ailleurs, il va s'en sortir, hein, n'est-ce pas, madame?
Ben, j'aimerais bien qu'il s'en sorte.
Il n'a plus qu'à distribuer les trois enveloppes et ça devrait bien se passer.
Ben, bien sûr. Moi, je trouve que qu'il lui foute la paix, qu'il lui laisse ses sous. Moi, je suis ravie que les gens touchent de l'argent.
Après tout, oui, s'il est heureux comme ça.
Eh bien, bien sûr.
Vous êtes pour la magouille décomplexée.
Absolument.
Oh, mais ça fait du bien. Ah, mais ça me décomplexe. Moi, j'étais mal parce que à midi, à la cantine, j'ai repris les frites alors que j'avais déjà payé. Ben, j'avais plus rien à foutre. Patoche, il aurait déjà défiscalisé la mayonnaise dans le plus grand des calmes. Ah, je me sens mieux. Hein, parce que là, bon, le gars, il est au-dessus. Il faut le dire, c'est un génie. Hein.
Effectivement, M. Balkany... Et son épouse ont eu une très grande intelligence dans leurs affaires, d'une certaine façon.
Qu'est-ce que vous appelez une intelligence dans les affaires?
Dans les détournements financiers qu'il a pu faire sous... effectivement, il y a une forme d'intelligence.
Il faut être intelligent pour faire un montage financier aussi complexe.
Oui, absolument. Et puis connaître par quel type de procédure on peut détourner pendant un temps le fisc, l'opinion, tout ça, bien sûr.
Eh ben, il y a une science, hein, Jamy. Il y a des années de travail derrière. C'est facile, vous payez vos impôts, alors vous êtes tranquille. Mais pendant que vous glandez, Patoche, il est sur Excel à faire des tableurs croisés. C'est le Michel-Ange du détournement de fonds. Voilà, on ne naît pas escroc, on le devient, hein, comme le disait si bien le poète Claude Guéant. Alors, est-ce qu'on devrait davantage mettre en valeur peut-être cette intelligence?
Vous trouvez qu'on aurait dû peut-être plus mettre en valeur cette intelligence?
Oui.
Mais il devrait peut-être ouvrir une école, alors, Patrick Balkany?
Là, je pense que l'école, elle existe, mais elle est souterraine. Il y a beaucoup de gens qui disaient c'est pratique encore. Voilà.
Une école de la défiscalisation.
Absolument.
Voilà, il faudrait une vraie formation officielle avec des cours dans l'amphi Bernard Tapie, par exemple, des masterclass par Cahuzac. Hein, c'est le problème. En France, on ne sait pas valoriser nos savoir-faire. Allez, courage Patoche et courage à Isabelle aussi qui a des petits problèmes de santé. En attendant, les cellules de la prison du même nom.
Merci, Guillaume Maris. Oh, vous étiez ça, un terrain de jeu, le Valois.
Ah bah ouais,
c'est votre
terrain
de jeu, vous êtes connu comme le loup blanc.
J'espère qu'ils ne vont pas être condamnés trop.
Oh, il y a le procès dure un mois, même plus. Ouais. Ouais, donc ça, on a le temps. Allez, il est 17h44 sur France Inter. Jamy nous accompagne, Jamy Gourmaud. Et on va aborder ce deuxième sujet qui est un petit peu le plat principal de cette émission avec Clara Dupont-Mono.
Eh bien oui, parce qu'avant, on avait des milliardaires philanthropes qui utilisaient leur argent pour vaincre les maladies du tiers-monde, par exemple. Pour financer des écoles. Ça, c'était avant. Parce que maintenant, on a Jeff Bezos. Il a finalisé son dernier hocher, qui est un alunisseur baptisé Blue Moon. Et alors, il faut que vous sachiez, Jamy, mais ce joujou rutilant pèse 15 tonnes. Et dès 2024, il pourrait se poser sur la Lune pour la conquérir. Bezos entre en compète pour décrocher un contrat avec la NASA et rentabiliser un espace encore vide. Ça s'appelle un état d'esprit.
Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre.
Flo Pagny. Ah, Florent Pagny, une vraie leçon de vie. Alors, on est assez loin des Bill Gates, des Pierre Omidyar, des Michael Bloomberg, à un moment qui a aussi un peu fait, en fait, des multimilliardaires qui ont accepté à un moment de redistribuer un peu leur argent au profit des autres. Est-ce que ça vous pince pas le cœur d'imaginer tout ce qu'on aurait pu faire pour la planète, vous qui l'aimez tant, avec un tout petit peu d'argent de Jeff Bezos?
Alors, effectivement, avec la fortune qu'il a, on pourrait faire beaucoup de choses. Heureusement, il y a d'autres milliardaires, vous les avez cités, qui organisent des fonds pour venir en aide aux plus démunis, à l'éducation, aux mal logés, etc. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que Jeff Bezos, je crois, a créé un fonds il n'y a pas très longtemps dans lequel il a investi 2 milliards de dollars, un petit peu pour se racheter.
Voilà.
Ce qu'il faudrait pas surtout...
Les fondations, il y a aussi un peu des niches fiscales. Hein. Je raccourcis, mais c'est un peu l'idée quand même aussi. Hein.
Ce qu'il faudrait, mais ce qu'il faudrait pas surtout, c'est que le comportement de Jeff Bezos avec ses salariés qui dérange beaucoup de monde.
Patron d'Amazon, je m'appelle.
Que ce comportement soit instrumentalisé par ceux qui n'ont pas envie de la conquête spatiale. Il y a vraiment deux choses dans ce débat. Il y a le personnage, Jeff Bezos, et puis il y a la conquête spatiale. Il y a ce que l'on va faire de la Lune. En 2024, il n'y a plus de station spatiale internationale. Il va falloir que l'on poursuive tous les travaux qui ont été engagés, toutes les découvertes qu'il nous reste à faire avec l'espace. Et pour ça, il va sûrement falloir retourner sur la Lune. Alors, que vont devenir, parce que l'entreprise de Jeff Bezos fait bosser, je crois, 2000 salariés, 2000 personnes. Il est un peu évident que tout ce qu'ils ont fait va être utilisé par la NASA pour poursuivre leurs travaux. Pour grimper sur la Lune. Voilà. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux choses. Il y a d'une part le personnage et d'autre part la conquête spatiale.
Et il y a, pendant que vous parlez, il y a un petit amas de pierres qui flotte au-dessus de nous, qui est un astéroïde du numéro 23877 qui porte votre nom. Oui. L'astéroïde Gourmaud.
Voilà. Et alors, je vous rassure tout de suite, il ne porte que mon nom, il ne m'appartient pas. je n'ai pas de villa sur cet astéroïde. Voilà. Je ne peux pas vous y inviter.
Mais il porte votre nom, c'est marrant. Alors, rappelons qu'en matière d'engin spatial, Jeff Bezos est soupçonné d'avoir envoyé aussi une photo de son engin à une femme qui n'était pas sa femme. Et donc, en matière de prouesse scientifique, il va déjà devoir raquer le divorce le plus cher de la planète.
C'est ça.
J'avais envie de le rappeler. Parce que bon, voilà, c'est Jeff Bezos, quoi. Il y a un moment. Ça équilibre. Jamie, à côté de vous, le conseil littérature de Juliette Arnaud.
Et avec un livre qui s'appelle Fouquet ou Le soleil offusqué. Double titre et même triple avec un titre à ma sauce. L'histoire d'un type, Fouquet donc, qui, comme on dit à Marseille, avait trop pris la confiance. Qui avait oublié un principe politique de base. Le temps change vite en montagne. Donc cet homme, c'est Fouquet, et l'histoire, elle est éclairée par un type un peu oublié de nos jours, Paul Morand, et on va pouvoir, avec ce livre, en profiter pour se repaître de ce qu'il eut de mieux, Paul Morand, c'est-à-dire son style. Un exemple de son style, Fouquet vit dans un petit monde où tous se haïssent, la cour est un inextricable marché de mauvais et de bons procédés, Paris est ce qu'il sera toujours, une ville où tout le monde a envie de tuer tout le monde. Bienvenue en France, au milieu du XVIIe siècle. Avec donc Fouquet, qui offusqua suffisamment le roi Soleil pour que le roi Soleil l'enferme jusqu'à sa mort, 19 ans tout de même. Oui, le roi Soleil avait le ressentiment massif, Staline aussi, entre autres, c'est un truc d'absolutiste. Offusqué le roi, mais pourquoi? C'est que Fouquet, surintendant des finances, jusqu'en 1661, date de son arrestation, était plus connu en 1661 que le soleil lui-même. Il s'occupait des finances, ça aide, d'autant qu'à l'époque on était assez souple sur la corruption, hein. On était plus du côté de Levallois que du côté de la Suède. Et puis c'était un immense mécène d'artistes, d'artisans, et c'était le maître d'œuvre de Vaux-le-Vicomte qui enterre dans la famille des châteaux Versailles. C'est pas moi qui le dis, c'est ma mère, donc c'est la vérité. Paul Morand, donc, en 1961, écrit ce livre, c'est-à-dire exactement trois siècles après l'enfermement de Fouquet, et il s'interroge sur le relatif oubli de Fouquet au XXe siècle. Et il met le doigt sur une des clés, il écrit « Fouquet avait un charme incomparable, et un charme incomparable ne survit pas au cimetière. » Alors il s'emploie à lui redonner vie à l'écureuil. Oui, c'était l'animal totem que s'était choisi Fouquet. Alors là, ça me fait assez peur parce qu'il y a un côté intuition de type Cassandre. Une des raisons de l'enfermement de Fouquet, elle tient là. Il était monté trop vite et trop haut. Oui, mais voilà, c'est la nature de l'écureuil de monter vite et haut. Peut-être aurait-il opté pour un autre animal, le gnou par exemple, ou le tabouret trois pieds, je propose. L'écureuil, si finaud, si vif soit-il, a loupé un truc majeur. Que le jeune roi de 23 ans, tout soleil qu'il se prépare à devenir, n'a pas du tout digéré la fronde et qu'il veut avant toute chose faire plier les grands seigneurs, tous, jusqu'à la garde, la nuque docile et la jugulaire à portée de l'âme. Et Fouquet, même s'il l'a aidé pendant la fronde, brille effrontément, certain de sa chance, sûr de la reconnaissance du roi. Je cite encore Paul Morand, il n'avait pas deviné la mutation de l'axe français de Paris à Versailles, l'extraordinaire déplacement d'équilibre dont il sera brusquement la victime. En effet, ce fut net et sans bavure. Mazarin meurt. On maîtrise deux minutes, tous les ministres se tournent vers le roi en lui disant « Dites, c'est pas tout ça, mais à qui on s'adresse maintenant que le rital a trépassé ?» Sous-texte, Fouquet, Colbert, moi, et le roi de répondre tout droit en deux mots « À moi ». C'était une première en France, on dirait la 5ème République avant l'heure. Fouquet se dit que ça va aller quand même, il a tort, Louis XIV lui envoie le castaner de l'époque, D'Artagnan, qui est tellement effrayé de lui mettre les menottes à l'écureuil qu'il oblige le roi à lui faire un papier tout à fait officiel avec son sceau. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il lui prend tout. Sa liberté, ses amis, ses protégés, ses artistes, ses 13 000 livres. Oui, il a été jusqu'à lui prendre tous ses bouquins. Et finalement, sa postérité. Que lui rend Paul Morand ici, brillamment? Bah ouais, qui de mieux qu'un écrivain diplomate lui-même banni en Suisse par De Gaulle pour ses accointances vichistes, pour se pencher sur un autre exilé, Fouquet. Pour célébrer son charme incomparable et pour ses amis, comme La Fontaine et Madame de Sévigné, fidèles jusqu'à la fin, malgré la vindicte royale, les écrivains qui, eux, ne mésestiment jamais le charme. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous, c'est paru en poche, en folio. Hein.
Oui, ça coûte donc relativement peu cher, c'est écrit par Paul Morand et ça s'appelle Fouquet ou le soleil offusqué.
Jamy, vous étiez à fond. Hein. L'étudiant en littérature que vous avez été ressurgi.
Non, vous parliez des jardins tout à l'heure. J'ai fait une émission sur vos Vicomte. Et donc,
dans Côté Jardin sur France 3.
Un petit peu renseigné sur le personnage. Et je crois qu'il a été... C'est complètement dingue parce qu'il fait construire ce château. Il réunit les plus grands architectes, les plus grands paysagistes de l'époque. Et donc, il organise une fête gigantesque.
La fête de trop, Edith voilà. Préto.
Voilà, il organise une fête, le roi est présent, et donc ce jour-là, Fouquet est un roi, c'est Fouquet le roi. Et le lendemain matin, Louis XIV le fait arrêter.
Le
lendemain matin.
Le Carlos Ghosn de l'époque.
Jamy Gourmaud avec nous, aussi fort en sciences qu'en histoire et qu'en littérature. On va aborder ce dernier sujet avec vous, c'est le tunnel sous la Manche qui fête ses 25 ans, un quart de siècle durant lequel le shuttle a symbolisé l'union entre la Grande-Bretagne et le continent européen. Des femmes, des hommes aussi ont œuvré au rapprochement de Londres et Paris ces dernières années. Saluons leurs efforts aujourd'hui.
Et je vous promets, I promise you, will succeed in Paris. Thank you very much. Be courageous. Be you. Be proud of you because you can be do what we want to do. Thank you.
Si, eh, si, eh, si, eh, si. Vous maîtrisez un peu mieux l'anglais, vous, Jamy, ça va?
On s'en lasse. Be brave.
Ah. Dites, on se disait, il y a 25 ans, autour de cette table, on avait tous à peu près entre 10 et 17 ans.
Pas moi.
C'est donc vous qui nous, c'est vous, avec ces pas sorciers, qui nous avez expliqué le tunnel sous la Manche. Très certainement. Quel souvenir vous avez de cette époque? Ça paraît de la science-fiction, il y a des années. Et aujourd'hui, hop, en un claquement de doigts, quand on a les moyens, on prend l'Eurostar.
C'est complètement dingue, parce que creuser un tunnel sous la mer, c'était un truc impensable. Alors depuis, il y a eu d'autres chantiers gigantesques, mais celui-ci est un des tout premiers. Et puis c'était relier, créer un cordon ombilical entre deux pays qui ne se sont pas toujours appréciés. Voilà, donc il y avait vraiment une dimension, je dirais, de symbolique et la dimension d'un ouvrage complètement gigantesque.
Vous aviez fait une maquette.
Le génie de l'homme.
Vous aviez fait une maquette. Ah ben voilà.
J'ai fait une maquette.
Mais d'où les critiques de l'époque, puisque on a beaucoup reproché à ce tunnel. On a dit bravo, l'Angleterre va devenir une presqu'île. Mm-hmm. Et il y avait François Mitterrand qui avait dit à la reine Elisabeth, chapeau bas, on va réussir à créer une frontière commune entre l'Angleterre et la France. C'était les critiques de l'époque.
Oui, mais ça a été. Enfin, moi, je l'ai regardé vraiment comme une prouesse technique extraordinaire, parce que j'ai eu la chance de visiter le tunnel et de me balader à l'intérieur, parce qu'il y a un tunnel de secours qui permet de longer la voie ferrée
et d'intervenir ou d'évacuer les gens,
voilà, et d'aller d'un bout à l'autre du tunnel. C'est très très impressionnant, parce qu'en fait c'est un tunnel qui zigzague un petit peu dans la roche, parce que pour le construire, eh ben on est allé chercher des roches très dures, donc une craie bleue qui se trouve un peu en profondeur, et donc de ce fait, on suit la construction, suit cette veine de craie bleue, et contrairement à une idée reçue que ce serait un tunnel comme ça en ligne droite, évidemment, ça zigzague un peu.
Ça zigzague, et notamment dans le monde de Jamy aussi, vous avez fait aussi accompagner un voyage en Eurostar. Jamy, avec nous, on a envie de jouer, si vous êtes d'accord.
Un autre sketch. Voyage. On vous propose un autre voyage. Tous les jours, on propose un sketch à l'invité qui découvre. Et il y a une info qui nous a fait marrer dans l'actu. Il y a Brigitte Macron qui va fonder deux écoles pour les adultes non diplômés. Donc elle va y donner des cours de littérature.
Elle en inaugure une aujourd'hui.
Voilà. Alors, à quoi vont ressembler ces cours? Jamy, vous jouez un élève, moi aussi, Charline, évidemment, Brigitte Macron. Et il est possible que Pablo et Juliette apparaissent dans le sketch, on verra ça.
Bon, vous êtes tous tous là ?
Oui, madame.
Mais qu'est-ce que vous faites là, madame Balkany ?
Ah non, 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 mais faites comme si de rien n'était, je me planque pour pas y aller à mon procès.
Ah oui, d'accord. Bon alors, concentrez-vous, les analphabètes, on va commencer.
On n'est pas analphabètes.
Ah bon ?
On n'est juste pas diplômés.
Ah oui, c'est ça, bah, c'est pareil. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec moi, vous allez étudier la littérature.
Ah, ça me rassure. Quand je vous ai vu, j'ai cru qu'on allait parler de la monarchie.
Ah oui, merci, parce que ce matin, j'ai hésité, mais j'ai remis un vieux tailleur Vuitton. C'est la collection de l'année dernière.
Bah, moi, je vous trouve rayonnante, madame.
Oh, vile flatteur. Bon, allez, comment vous expliquez la littérature avec des mots simples ? Alors, pour résumer, bon, la littérature, c'est l'ensemble des livres.
Ouh là là, ça va trop vite. On n'est pas diplômés, je vous rappelle.
Ok. Bon, alors, vous avez déjà lu un livre ?
Oui, madame, Révolution.
Mon Dieu, quelle horreur ! Che Guevara ?
Non, Emmanuel Macron.
Mais quel faillot !
Oh, j'adore les faillots. Et vous, qu'avez-vous lu ?
Les Misérables.
Tu m'étonnes.
Pardon ?
Ah non, rien, rien, non, rien. Ah, c'est à quel sujet ?
Oui, bonjour, Jean-Luc Lahaye, j'ai entendu dire qu'une nouvelle école venait d'ouvrir.
Oui, c'est ça, c'est une école pour adultes non diplômés.
Ah, pour adultes ? Laissez tomber. Ciao.
Voilà, reprenons. Allez, bande de feignasses, là. Qu'avez-vous envie de lire ?
Balzac.
Ah, excellent. C'est très start-up, l'histoire d'un jeune homme qui ambitionne de changer de classe sociale, de grimper les échelons dans la société.
Ah oui, c'est de la science-fiction, quoi.
Mais non, mais c'est très réaliste. Bon, et vous, est-ce que vous voulez étudier une œuvre en particulier ?
On peut étudier mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques de Jamy Gourmaud.
Jamy, concentrez-vous sur le sketch, s'il vous plaît. N'essayez pas de faire du placement de produit.
Pardon. On peut lire « La chute » d'Albert Camus.
Ah, c'est un message ?
Non, c'est une prédiction.
Merci beaucoup, Jamy. Je rappelle que sur France 3, on peut voir le monde de Jamy. On peut aussi voir Côté Jardin et vous lire dans ce très intéressant ouvrage. On apprend plein de choses. Et puis, il faut dire que ce n'est pas du tout une ressuscité de ce que vous avez fait. C'est du de tout. L'inédit.
Absolument.
Ce sont les recherches et les magnifiques explications de Jamy Gourmaud dans Mon Tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques, paru chez Stock. Merci les amis. Et on vous laisse le mot de la fin, Jamy.
Mais la question qui m'était posée, c'était sur ce qu'un scientifique pouvait apporter à la
cité. Ah oui, mais si vous commencez à répondre aux questions, on n'est pas sortis.